Suffit de regarder autour de nous. Tout le monde est accro à ces trucs.
Quelles sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution Numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaires qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
Sécurité sociale, chômage, impôts, retraite, billets de train, aujourd'hui la plupart des démarches se font sur Internet.
Car aujourd'hui, Internet est partout, banques, services publics, tourisme, recherche d'emploi, etc. La dématérialisation a gagné tous les secteurs.
À l'heure d'une société toujours plus connectée, être privé d'Internet devient un véritable handicap.
Il y a beaucoup de personnes âgées, mais la fracture numérique touche également les personnes pauvres, hein, qui n'ont pas les moyens de s'équiper.
Coucou les filles, je reviens de la CAF et en fait, il n'y a plus aucun guichet.
Quoi ? Mais tu vas faire comment du coup pour ton problème d'APL ?
Bah en ligne, comme tout depuis le Covid, j'ai l'impression. Surtout que je me souviens même pas de mon mot de passe, ça va encore être la galère.
Imagine à quel point ça doit être compliqué pour les personnes âgées. Mes grands-parents n'ont pas d'ordi, pas de smartphone, pas d'internet.
Sans compter les réfugiés, qui ne parlent même pas la langue et qui sont déjà assez discriminés comme ça.
Bienvenue dans l'épisode numéro 6, l'État plateforme en contexte de crise sanitaire ou la nécessité de penser la médiation numérique. Cet épisode vous sera présenté par Yaël, Hortense et Morgane.
Aujourd'hui, dans la continuité de l'épisode numéro 5, nous nous intéressons à l'État plateforme et aux fragilités numériques qui l'entraînent.
Nous verrons également comment cet État défie la médiation numérique.
Mais en fait, c'est quoi cet État plateforme ?
T'inquiète, laisse-moi t'expliquer. Le terme d'État plateforme vient au départ des États-Unis, d'un article de 2011 écrit par Tim O'Reilly, l'inventeur du terme de Web 2.0. L'idée de départ est que la multitude, c'est-à-dire la contribution individuelle, va créer de la force collective, de l'intelligence collective. L'auteur théorise donc cette idée que l'action publique doit se réorganiser pour capter cette puissance de la multitude et créer de la valeur à travers des méthodes agiles.
Le concept d'État plateforme s'appuie sur la technologie pour permettre une rénovation en profondeur de l'organisation des services publics. L'État plateforme, fondamentalement, propose une nouvelle collaboration entre toutes les parties prenantes, les ministères, les agences publiques, les entreprises, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations et bien sûr les citoyens directement.
Ce processus continu de transition numérique a comme point de départ la politique d'ouverture des données publiques et répond aux logiques de tatification. L'une des richesses de l'administration sont les données qu'elle produit sur elle-même et sur les citoyens, et les outils numériques permettant de produire des formats d'exploitation de ces données qui améliorent l'efficacité des services publics.
Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais ? Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps...
D'accord, mais qu'en est-il de cet État plateforme en France ?
Eh bien, depuis une dizaine d'années, diverses startups d'État ont vu le jour, précisant toujours davantage les contours de cet État plateforme. En 2011, data.gouv.fr, un portail interministériel de données publiques, est créé dans une logique de circulation et aussi de réutilisation des données. Ensuite, en 2015, France Connect, un bouton de connexion de services publics, est mis en place sur des centaines de sites administratifs. Ce bouton a été pensé comme un outil pour réduire le fardeau administratif des citoyens. Et il est la première étape du projet de plateformisation de l'État. En plus, dès 2017, l'État français annonce l'adoption d'une stratégie globale, appelée Action publique 2022, et qui vise justement à asseoir la plateformisation de l'État.
Et soulignons également que, dès le début de l'épidémie, la distanciation sociale et la limitation des relations interpersonnelles fut imposée. Le service public n'a pas échappé à ces règles. Le recours au numérique fut donc nécessaire pour assurer la continuité de ce service.
Clément Mabille est chercheur à l'Université de technologie de Compiègne et ses recherches portent sur les usages citoyens du numérique. Récemment, il a notamment travaillé sur l'ouverture des données publiques, soit l'open data. Mais selon Clément Mabille, l'État plateforme en France serait en perte de vitesse. Le projet de plateformisation repose sur un technodéterminisme qui voudrait que la libération des données, par effet mécanique, entraîne une amélioration citoyenne. Ce technodéterminisme survalorise ce que peut faire l'État plateforme, mais invisibilise aussi les alternatives et fait perdre sens à ce qui est déjà existant.
Cet État plateforme aurait donc d'autres conséquences que l'amélioration du service public ?
Juste un mot sur l'État plateforme et le numérique qui sont souvent perçus comme anxiogènes.
Il y a deux effets principaux à la mise en place d'un tel projet. Le premier est organisationnel. La plateformisation de l'État implique des changements importants et parfois éloignés de la réalité, notamment dans les administrations. Un tel projet devrait donc inclure des formations, des négociations avec les syndicats, etc. Et ce n'est pas le cas.
Le deuxième concerne l'accès et l'utilisation de ces services. Il faudrait plutôt regarder les usages et les pratiques de ces populations pour prendre en compte leur fragilité numérique. L'État plateforme n'a pas su répondre à la question de l'accompagnement de ces fragilités et le numérique peut aussi être un outil qui met en incapacité d'agir.
Notons que Mabille préfère parler de fragilité numérique plutôt que de fracture numérique, comme celle développée dans l'épisode précédent. Car la fracture laisserait penser qu'il s'agit d'équipement, tandis que la fragilité inclut différents moments de la vie.
D'ailleurs, nous avons mené deux interviews avec un bénévole du Secours Populaire et une bénévole de la CIMAD. Ils nous ont expliqué que la fragilité numérique est en fait une conséquence d'exclusion préexistante. Les migrants, comme tout le monde, connaissent des barrières, notamment économiques, pour l'accès au matériel par exemple, et sociales, comme l'accès à l'éducation. Ils n'y échappent pas et font même face à une intersectionnalité. Les difficultés liées au numérique s'articulent aux contraintes déjà difficiles de leur situation.
Les femmes sont souvent derrière leur mari dans ces histoires et qu'elles maîtrisent moins bien l'appareil numérique. Et donc, c'est un facteur supplémentaire de discrimination sexuelle, on va dire, enfin de genre plutôt.
Mais tout ça, ce ne serait pas le concept de dématérialisation dont parle Mazet dans l'un de ses articles ?
C'est transformer la relation de guichet. La relation de guichet, c'est le lien que tu crées à l'usager. C'est la porte que tu ouvres pour permettre à l'usager d'entrer en contact avec l'administration. C'est ça, la dématérialisation. Déléguer au numérique un service et un point de contact avec les usagers.
Aujourd'hui, des tas de processus anodins passent par les technologies, que ce soit acheter un ticket pour un transport ou présenter son pass sanitaire. Mais tout cela nécessite des « digital skills », soit des compétences numériques. À cause de la numérisation du monde, nombreuses sont les personnes exclues des plateformes. Le problème, c'est que ces personnes sont mises de côté car elles font face à des barrières difficilement franchissables. C'est ce que l'on appelle l'e-exclusion. Tel qu'illustré par le podcast précédent, les personnes âgées peuvent être victimes de cette exclusion. C'est aussi le cas des réfugiés, pour différentes raisons. Certains d'entre eux font même face à ce que l'on appelle « the deep social exclusion ». Ils ne pourront jamais abaisser ces barrières par eux-mêmes, puisqu'elles sont trop hautes, et nécessitent alors l'aide d'une tierce personne.
Pierre Mazet est chercheur en sciences sociales et spécialiste des usages numériques. Il est associé au Lab Accès, un projet de recherche autour des questions de l'accès aux droits et aux services publics dans un contexte justement de dématérialisation.
Mazet explique justement que l'externalisation vers le numérique rend les travailleurs sociaux des utilisateurs obligés de ces plateformes. Leur tâche est alors plutôt de guider ces usagers fragilisés du numérique qui sont, comme l'ont démontré plusieurs études, les plus pauvres et les moins diplômés. Ces personnes sont celles qui nécessitent le plus d'aide de la part des médiateurs.
Notons que les exclus du digital sont d'abord exclus de la société avant le numérique. Ils sont souvent seuls et n'ont pas la possibilité de rencontrer des personnes leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'usage des technologies. Il est alors nécessaire de leur proposer une alternative via un médiateur. Ces médiateurs de terrain, souvent issus du monde associatif, sont de plus en plus sollicités. La délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés a fait appel à des partenaires associatifs pour créer des stratégies d'inclusion numérique, parmi lesquelles
Emmaüs Connect, France Terre d'Asile ou encore la Croix-Rouge française. Cela démontre que les médiateurs associatifs sont investis dans la cause de l'inclusion numérique des réfugiés. En France, l'idée a donc été de dématérialiser, mais cela se conjugue mal avec la question des fragilités du numérique et de la fragilité des usagers. Notons également que pour beaucoup, la dématérialisation rime avec la déshumanisation, comme l'a d'ailleurs si bien énoncé Madame Provençal, bénévole à la CIMAD, lors de l'interview.
Moi, j'en veux, si vous voulez, à la dématérialisation parce que elle fait en sorte que ça déshumanise les gens qui vous demandent l'asile ou qui vous voyez.
Mais alors, que doit-on vraiment faire? Qu'est-ce qui pourrait réellement fonctionner?
Monsieur Zeytoun, bénévole au Secours populaire dont le rôle est de diminuer la fracture numérique, nous explique que toute aide apportée doit surtout reposer sur les capacités pédagogiques des bénévoles et sur leur ouverture d'esprit. Un expert du numérique ne sera pas forcément le plus à même d'aider les exclus du digital.
Mazé indique par ailleurs qu'il est essentiel de prendre en compte la dimension émancipatrice et capacitante. Par exemple, si on apprend en personne à utiliser une fonction pour se connecter sur le site de l'État et que le site change par la suite, alors la personne sera perdue à nouveau. Il est donc nécessaire pour les publics les plus éloignés d'apprendre à apprendre.
Plus de technologie égale plus d'humains. Dématérialiser ne veut certainement pas dire interrompre la relation. Eh bien, il faut te dire que c'est des secteurs où il faut énormément accompagner les bénéficiaires. Il faut être capable de mettre en place des politiques publiques qui partent en fait de la réalité des usages des gens.
Clément Mabi nous expliquait que le numérique arrive comme une fragilité supplémentaire. L'État a mis en place des politiques d'accompagnement, d'inclusion et de médiation, tandis qu'il faudrait plutôt créer des dynamiques d'accompagnement continu. Les dispositifs locaux qui ont été mis en place afin d'accompagner les usagers dans l'autonomisation numérique et de lutter contre l'exclusion numérique ont comme point commun de recourir principalement à des acteurs non professionnels, tels que des associations de bénévoles ou des services civiques. Mais ils ne prennent pas non plus en compte le degré d'autonomie qu'il faudrait viser, risquant de manquer la dimension émancipatrice et capacitante.
Et puis, je pense qu'il faut aussi toujours laisser plusieurs portes d'accès ouvertes. Il faut limiter les services qui sont accessibles uniquement par numérique.
Des associations comme la CIMAD et le Secours Populaire Français militent pour qu'il y ait toujours une possibilité d'avoir quelqu'un en présentiel, mais on peut espérer que cela aboutisse, puisque depuis la crise de Covid, les services administratifs en face à face ont disparu et ne seront probablement jamais rétablis.
Est-ce qu'il y a des services qui ont déjà fonctionné?
Oui, il y en a. Et c'est justement l'occasion d'introduire la notion de médiation numérique. Cette notion désigne les accompagnateurs, mais aussi les mécanismes qui visent à favoriser l'apprentissage de compétences numériques et ainsi favoriser l'accès à l'information en ligne.
En réalité, les barrières sont tellement grandes que la maîtrise du numérique est presque impossible. Dans la littérature, il n'y a pas de définition claire et commune de ce qu'est la médiation numérique ou de ce que sont les médiateurs numériques. Notons également que les pratiques de médiation numérique sont hétérogènes et qu'il y a une grande diversité des offres des lieux de médiation numérique.
Clément Mabi a justement écrit sur les communs numériques comme levier d'innovation contre le Covid. Il a montré comment deux rapports numériques ont émergé. D'une part, le rapport puissance-domination, c'est-à-dire piloter la crise par les données pour protéger les populations et les nouvelles d'échantillonnage de l'opinion. Et d'autre part, une logique beaucoup plus collaborative, dont notamment celle de l'État plateforme. Selon lui d'ailleurs, les projets les plus réussis sont ceux de plateformes participatives, et l'une des meilleures réponses à la crise sanitaire a justement été lorsque l'on a fait de l'action publique d'État plateforme au niveau local, tels que par exemple les projets Voisins-Voisines ou encore Nantes Entraide.
Citons également les numériques en commun, qui ont été mis en place comme un nouveau format de politique publique afin de structurer les politiques d'inclusion en France. Leur objectif est de structurer le réseau des acteurs de la médiation numérique et de faire exister le format État-plateforme.
Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que parmi les bénévoles, beaucoup doivent également apprendre. C'est un apprentissage en commun, puisque tout le monde fait face au même problème de numérisation. Monsieur Zeytoun mentionne également, tout comme Madame Provençal de la CIMAD, que la langue est une barrière pour les migrants faisant face à l'État plateforme.
C'est pour cela que le site réfugiés.info permet la collaboration via la traduction par les réfugiés eux-mêmes dans leur langue maternelle. Ce site a été lancé en 2019 et a pour but la mise en place d'une aide à l'accueil des réfugiés. Plateforme participative, ce site est donc alimenté par les contributions volontaires et la collaboration générale. Dans ce cas, la médiation est externalisée à des civils. Non seulement l'État laisse la tâche de l'information aux réfugiés à une plateforme et à des assistants sociaux, mais les traductions sont faites par les pairs eux-mêmes. Ceci révèle évidemment la logique d'externalisation sous-jacente, mais souligne aussi les élans solidaires créés avec ce type de procédé.
Je souhaite que réfugiés.info devienne un site de référence pour les réfugiés qui arrivent en France et pour l'ensemble des personnes qui travaillent et s'investissent au quotidien pour améliorer la vie des réfugiés.
Cette plateforme, c'est une boîte à outils pour nous, avec des ressources pour les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes réfugiées et qui pourront trouver tous les dispositifs qui existent pour mieux les aiguiller.
La CIMAD et le Secours Populaire sont omniprésents en France et en particulier à Marseille. On y trouve 100 antennes du Secours Populaire pour aider les personnes dans le besoin et parmi celles-ci, une dizaine est déjà équipée de matériel informatique. Mais ce matériel informatique ne serait rien sans l'engagement des bénévoles qui font régulièrement des formations au numérique.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous invitons à consulter les ouvrages de Pierre Mazet, Vers l'État plateforme, et de Thierry Claire, Renforcer le rôle des bibliothèques dans la lutte contre la fracture numérique. Le 13 septembre 2018, d'ailleurs, Mounir Majoubi a présenté un plan national pour un numérique inclusif et une France connectée, dont l'ambition est d'organiser une mobilisation générale contre l'électronisme et de construire une société numérique performante et humaine. Le prochain épisode présentera la manière dont les rapports au travail ont évolué. Ils ont induit une dimension de contrôle dans les activités du domaine de la restauration et ont également impacté nos comportements durant la crise sanitaire.
C'était avec grand plaisir que nous vous avons présenté ce 6e épisode. Merci pour votre écoute et à la prochaine.
La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité. Elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais...